Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On va parler d'école secondaire, de laideur de nos écoles secondaires. Écoutez, il n'y a pas moins de 13 écoles neuves là, qui vont ouvrir leurs portes d'ici 2024. Il semble que ce soit une sorte de record, autant de mises en chantier. Mais c'est loin d'être un luxe parce qu'il y a trop d'élèves qui fréquentent des écoles qui ont l'air de bunkers ou qui sont dans un état lamentable. Il y a 6 écoles sur 10 qui sont jugées en mauvais état au Québec, tout niveau confondu. On peut lire ça dans un dossier de Louise Leduc dans la presse de ce matin. Et nos écoles ont en moyenne 50 ans. Franz Benjamin est député de Viau pour le Parti libéral du Québec. Il milite depuis longtemps pour que les jeunes du quartier Saint-Michel aient accès à autre chose que des bunkers ou des imitations de bunkers en matière d'école secondaire. Monsieur Benjamin, bonjour.
Bonjour, Monsieur Lagacé.
Vous avez D'abord, dites-nous quelles écoles secondaires publiques sont sur votre territoire?
Écoutez, sur le territoire, il y a école secondaire, il y a Joseph Papineau, qui est au nord de la circonscription. Il y a aussi Joseph-François Perrault, qui est un peu plus au sud de la circonscription, comme école francophone. Mais il y a aussi l'école JFK, qui est l'école secondaire anglophone, qui est sur mon territoire aussi.
Et vous avez fréquenté quelle polyvalente?
Moi, j'ai fréquenté la polyvalente Anjou dans un premier temps, ensuite Calixa-Lavallée à Montréal-Nord. Donc, mes frères, ont fréquenté le Joseph Papineau.
OK. Et dans mon souvenir, Calixa-Lavallée, c'est un peu un bunker aussi, non?
Absolument. Mais Louis-Joseph Papineau, j'oserais dire, en termes de bunker, c'est l'école qui est appelée vraiment le bunker à Montréal, parce que c'est une école vraiment avec aucune fenêtre, pas de fenêtre. Et là, on a pu, après une longue bataille menée par la mobilisation citoyenne, je pense entre autres à des citoyens comme Jacques Langlois, qui est un citoyen de la circonscription, avec d'autres citoyens, on s'est mobilisés. Et puis enfin, on a pu annoncer que bientôt, c'est-à-dire d'ici peut-être 2-3 ans, espérons-le, Joseph Papineau aura finalement des fenêtres.
Et ça fait combien de temps que les parents militent pour le simple fait d'avoir des fenêtres dans l'école de leurs enfants adolescents?
Écoutez, ça fait des années. Ça fait des années, je me rappelle, à l'époque où il y avait encore les commissions scolaires et les représentations qui se faisaient par de lors des séances de conseil des commissaires pour aller faire cette demande auprès des commissaires scolaires. Et ça faisait des années. Et grâce à la ténacité, il faut saluer la ténacité des citoyens de la circonscription avant tout, qui n'ont pas laissé tomber, qui ont persévéré, et puis on a pu. Et moi-même, comme député de la circonscription, j'ai eu à interpeller le ministre de l'Éducation à quelques reprises en commission parlementaire, donc pour lui demander d'agir au nom des élèves de la circonscription aussi. Pas seulement des élèves, parce que vous savez, une école, c'est un lieu d'apprentissage, mais c'est aussi un milieu de travail pour des dizaines d'enseignantes et d'enseignants et une direction d'école. Et je veux saluer le travail extraordinaire qui est fait au quotidien par ces enseignantes et ces enseignants-là. Mais il faut leur donner les moyens d'agir. Et les moyens d'agir, c'est les ressources, mais c'est aussi une belle infrastructure, une belle école.
Ça a quand même des effets concrets pour des jeunes d'aller dans des écoles qui sont dénuées de fenêtres, donc de soleil, d'ensoleillement, de lumière. Ça a un effet sur le moral. Racontez aux gens qui nous écoutent, monsieur le député, les témoignages que vous recevez des parents, parce que les parents, à tout prendre, ne veulent pas envoyer leurs enfants bien souvent dans une école comme ça, là.
Ben écoutez, c'est sûr que c'est un facteur démoralisant. Toutes les recherches l'ont prouvé. Moi, j'ai même pas besoin de recherche. J'ai des témoignages dans Saint-Michel, des gens qui, des élèves, certains élèves qui n'ont pas voulu fréquenter Joseph Papineau, des parents qui ont préféré se saigner à blanc pour peut-être trouver les moyens d'envoyer leur enfant à l'école privée au lieu de les envoyer à l'école du quartier. Et c'est vrai, toutes les recherches le démontrent. Avoir une école avec une belle infrastructure, une belle qualité d'architecture, c'est une condition gagnante aussi non pour la réussite éducative, mais aussi pour encourager la persévérance scolaire, l'apprentissage. Et malheureusement, on parle ici de Joseph Papineau, mais on peut parler d'autres écoles dans d'autres quartiers à Montréal qui n'ont pas cette chance, des élèves qui n'ont pas cette chance de fréquenter une belle école où on a accès au soleil, à une fenêtre, à la lumière du jour. Et ça, c'est déplorable en 2022.
OK. Monsieur Benjamin, vous êtes député pour le Parti libéral et dans le dossier de Louise Leduc dans la presse ce matin là, sur les nouvelles écoles secondaires qui se construisent au Québec, il y a Nicolas Prévost de la Fédération québécoise des directions d'enseignement qui dit, écoutez, faut donner ça à la CAQ. Ils ont investi pour construire ces écoles-là, des infrastructures scolaires. Là, vous n'étiez pas au gouvernement avant 2018. Vous êtes arrivé dans la dernière élection. Donc, vous êtes un petit peu libéré, on va dire, de la ligne de parti. À quel point le Parti libéral a une responsabilité? Il a quand même dirigé de 2003 à 2018 avec un court interlude de 18 mois.
Écoutez, ce que je peux vous dire, en fait, je parle pour Saint-Michel, au niveau des établissements primaires, des établissements scolaires primaires, mon prédécesseur, c'était Barry Dertel, qui était député de la circonscription de Viau avant moi, a travaillé très, très, très fort. Et je peux vous dire, et cette semaine d'ailleurs, je vais participer à l'inauguration d'un nouveau pavillon d'une école primaire. Au niveau des écoles primaires, il y a un bel effort qui a été fait sous le Parti libéral du Québec, mais il va sans dire qu'au niveau des écoles secondaires, effectivement, il y a un retard au niveau des établissements. Maintenant, l'enjeu, c'est pas tellement d'annoncer le nombre d'écoles, M. Lagacé, et qui vont être construites. C'est de s'assurer d'avoir les moyens de ces annonces-là. Donc, on nous a annoncé pour 2023, 2024, 2025, des écoles qui vont être construites. Maintenant, il faut s'assurer de les réaliser, de la réaliser aussi. Parce qu'on a vu dans d'autres dossiers beaucoup d'annonces qui ont été faites par l'actuel gouvernement et on n'est pas sûr que la marchandise sera livrée. Pensons entre autres aux maisons des aînés, par exemple. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, quand on parle des quartiers, et moi, j'ai toujours milité pour avoir une sensibilité pour les milieux défavorisés. Pas seulement Saint-Michel, l'ensemble des milieux défavorisés partout au Québec. C'est dans ces milieux-là où il faut doter ces milieux-là des meilleures infrastructures, au niveau de la municipalité, des meilleurs parcs, des meilleures installations, au niveau des maisons communautaires, des écoles. Parce que vous savez, une école, c'est au cœur de la vie d'une collectivité. Donc, en ce sens-là, moi, je suis content de savoir qu'aujourd'hui et dans les prochaines années, nous allons travailler pour doter nos milieux de meilleures installations. En attendant, pour Saint-Michel, d'avoir une école neuve, comme le méritent les jeunes de Saint-Michel, on est quand même content que dans 2-3 ans, peut-être, on aura des fenêtres à Louis-Joseph Papineau.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Benjamin. Bonne journée.
Merci beaucoup, M. Lagacé.
À la prochaine. C'était le député Franz Benjamin de la circonscription de Viau. M. Benjamin milite depuis longtemps là, pour que les écoles secondaires de son quartier aient moins l'air de bunker, mais vous l'avez entendu, c'est extrêmement long et extrêmement compliqué. On va parler de Airbnb, si vous voulez me dire comment ça se passe quand on a un Airbnb, un logement, une maison, un appartement à côté de chez soi. Écrivez-moi au 985. On sait qu'il y a une pénurie de logements en général au Québec, des logements abordables et en particulier à Montréal. Le gouvernement a finalement reconnu la semaine dernière qu'il y avait bel et bien une crise du logement au Québec. Les données sont catastrophiques sur le taux d'inoccupation dans plusieurs régions. Et pendant qu'on manque de logements et que le prix des loyers explose, ben il y a plus de 12 500 logements qui sont en location courte durée sur Airbnb, selon une carte interactive qui circule sur les réseaux sociaux. Rouba Gazal est la députée de Mercier pour Québec solidaire. Madame Gazal, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Donc, qu'est-ce que cette carte-là dit et d'où vient-elle?
Oui. Bien, ça, c'est une carte, comme vous avez dit, qui circule sur les réseaux sociaux. C'est un site Internet qui... honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais qu'il y a des gens qui compilent les informations qui sont sur le site de Airbnb, puis qui regardent est-ce que, par exemple, il y a un permis. Est-ce que ces gens-là, pour pouvoir mettre leur location sur le site de Airbnb, etc. Puis, de toute façon, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y en a énormément, locations qui sont sur le site de Airbnb. Puis ça, c'est tous des logements qui, donc, ne sont pas mis sur le marché locatif normal pour des familles, pour des aînés, pour des gens qui cherchent des logements où habiter puis où faire vivre leur famille. Puis moi, comme députée de Mercier, ça, c'est le plateau Mont-Royal et le Mile End, J'habite là, je suis la députée, je représente les gens qui sont là, ce qui m'inquiète énormément. Déjà que les prix des loyers ont explosé dans les dernières années. Les gens ont de la difficulté à se loger. Ils se font même mettre dehors par des propriétaires qui veulent mettre 2-3 couches de peinture et les louer beaucoup plus cher ou les mettre sur Airbnb. Moi, ce qui m'inquiète, c'est toute cette quantité énorme de logements donc qui ne sont pas disponibles pour les citoyens qui appellent à mon bureau parce que ils sont pas capables de trouver un logement ou qu'ils se font mettre dehors. Et surtout que ces logements-là ne sont pas légaux. C'est-à-dire que c'est illégal d'afficher son logement sur Airbnb si on n'a pas obtenu un permis du gouvernement. Et ça, c'est dans la loi et c'est illégal.
Mais comment vous savez que ces logements-là, Mme Gazal, sont illégaux parce que loués sans permis?
Bien, parce que sur le site, justement, le site Internet que j'ai diffusé et qui circule sur les réseaux sociaux, ça s'appelle Inside Airbnb, je pense. Donc, ce qu'ils regardent, il est facile, puis vous, n'importe qui, on peut aller sur le site de Airbnb et voir s'il y a un numéro de licence ou un numéro de permis donné par le gouvernement. Et il n'y en a pas. Bien, quand il n'y en a pas, bien, c'est-à-dire qu'on est illégal parce que c'est obligatoire. Là, il faut... Là, il y en a énormément. C'est 95,5% sur le plateau que c'est le cas. T'sais. Fait que là, il faut appeler à Revenu Québec pour porter plainte, pour dire, ben lui, il n'y en a pas. Il y en a énormément. Et là, Revenu Québec en ont plein les bras. Ils doivent donner des contraventions. Mais le problème, c'est comment est-ce qu'on permet, comment est-ce que Airbnb, elle, n'a pas d'amende parce qu'elle permet à des gens de mettre leur logement, que ce soit pour une raison juste parce qu'ils partent quelque temps, une semaine ou deux, ou de façon commerciale, parce qu'il y en a qui font ça de façon commerciale. Il y a des gens qui ont une cinquantaine de loyers, qu'ils affichent de logement, qu'ils affichent sur Airbnb, puis ils font de l'argent. C'est comme de l'hôtellerie clandestine. Ils se prennent pour des hôtels, mais sans permis. Et Airbnb, ben, a aucune ne fait pas de contrôle et n'a pas d'amende. Parce qu'elles ne respectent pas la loi, elles non plus, en permettant ça.
OK. Est-ce que vous pensez, chez Québec solidaire, que Airbnb ne devrait pas exister, ne devrait pas pouvoir faire des affaires au Québec?
Bien, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens, puis on en connaît tous dans notre entourage, des honnêtes citoyens, qui veulent, qui partent, par exemple, une semaine ou deux, un mois pendant les vacances, leur logement est vide, ils veulent en faire profiter d'autres personnes, puis faire un peu d'argent de poche, si on veut. Ça, c'est correct. Une fois par année, de temps en temps, c'est correct de faire ça. Mais ce pourquoi ce dont le gouvernement et la ministre André Laforêt, qui ne joue pas son rôle, qui est une ministre passive totalement face à la crise du logement, qui a pris 3 années de retard après tout le monde pour reconnaître qu'on est dans une crise, ce qui est honteux pour une ministre de la CAQ et le premier ministre aussi qui l'appuie. Puis il y a des gens qui souffrent, des vraies personnes et des familles qui souffrent. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ces gens-là qui l'utilisent comme je disais, de l'hôtellerie du clandestine, qui en ont plein, ils retirent plein de logements, des centaines, il y en a là, c'est des clients, là, il y en a des cinquantaines, des centaines de logements, qu'ils retirent à des familles, à des gens qui en ont besoin, puis qui les expulsent en dehors de leur quartier. Et c'est ces gens-là qu'il faut attaquer puis qu'il faut mettre au pas par des amendes, mais aussi peut-être avoir un débat. À Montréal, on a peu de logements abordables. Ailleurs au Québec, à Rimouski, il y a moins de 1% de taux d'inoccupation. On devrait avoir un débat. Est-ce que on devrait permettre à des gens de faire de la grosse pièce en mettant des logements comme ça sur Airbnb alors qu'on est en pleine crise du logement?
OK, parce que ce que vous me dites, si je décode bien, là, Madame la députée, là, vous n'êtes pas contre Airbnb, vous en avez contre les gens qui ont des logements qui ne servent qu'à ça.
Exact, qui en abusent et que le gouvernement ne fait rien. Ils n'ont même pas de permis commercial. Puis s'ils en ont un, ben c'est vrai qu'il y a un... En fait, moi, je pose des questions. Est-ce que, même s'ils ont un permis, puis même si c'est légal, est-ce qu'en pleine crise du logement, les gens ont de la misère à se loger à des prix abordables, parce qu'on peut trouver des logements à 2 000 $, là, qui a les moyens de payer ça? Est-ce que c'est correct de permettre ça? Moi, je pose la question. Et comme vous dites, il y a des gens qui c'est correct de façon circonstancielle, mais d'en faire... Puis surtout maintenant, moi, ce que j'invite les auditeurs qui nous écoutent, là, l'été s'en vient, quand vous allez, il y en a beaucoup qui veulent continuer à visiter nos belles régions du Québec, ben je vous invite à encourager nos gîtes, nos hôtels qui ont souffert pendant les deux dernières années à cause de la pandémie, au lieu d'aller dans nos régions du Québec et de louer des Airbnb, encourager les commerçants locaux, ceux que c'est leur grand pain. Donc, les auberges, les hôtels, les motels un peu partout au Québec, au lieu d'encourager Airbnb pour les gens qui veulent juste faire de l'argent en se foutant totalement et sous l'inaction du gouvernement de la crise du logement.
OK, je prends un autre angle pour vous poser un peu la même question. Est-ce qu'on peut reprocher à des gens qui décident d'acheter des propriétés, qui décident de louer des propriétés, est-ce qu'on peut leur reprocher de vouloir aller chercher plus d'argent sur le marché Airbnb que par le marché traditionnel?
Si ce n'est pas leur résidence principale et qu'ils l'achètent uniquement pour faire de l'argent, puis fonctionner comme des hôtels, en pleine crise du logement, on peut leur reprocher peut-être pas à eux, mais on peut reprocher au gouvernement, parce que eux, s'ils veulent faire de l'argent, ben c'est ça qu'ils veulent. Mais le bien commun et la crise du logement, puis aider les familles à trouver un endroit où se loger, puis élever leur famille à prix raisonnable, bien, ça, c'est le rôle du gouvernement et on peut reprocher, et je le fais, à la CAQ de ne rien faire face à ce fléau.
Parfait. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Mme Gazal.
Merci à vous.
À la prochaine. C'était Rouba Gazal, députée de Mercier. Ça englobe le plateau Montréal, le Mile-End pour Québec solidaire.
Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Patrick Lagacé en accéléré.
Salut Luc.
Salut Patrick.
Est-ce qu'Airbnb, c'est bon pour les villes?
Non, c'est un cancer épouvantable. Parce que Airbnb, ça s'installe là où il y a des quartiers vivants. Et puis évidemment, ce que ça fait, c'est que ça fait augmenter les prix de façon dramatique, là. Puis d'abord, c'est illégal. Hein? Maintenant, dans la plupart des quartiers, comme par exemple le Plateau ou Ville-Marie, il y a des toutes petites sections du quartier qui sont réservées à Airbnb, à la possibilité de louer Airbnb.
OK, il y a des sections qui sont exclues d'Airbnb.
90% sont exclus du quartier.
OK.
Et donc, quand tu le fais, c'est illégal. Il y a une raison pour laquelle c'est illégal. Tu sais que d'ailleurs, les réglementations sur Airbnb, ça a commencé sur le plateau en disant, ben là, c'est parce qu'effectivement, maintenant, on était rendu à 3 500 logements en été. Avec Ville-Marie, on était rendu à 5 000 logements. Donnez-nous un exemple. Pour corriger la crise du logement, on parle de faire du logement abordable puis du logement social à hauteur d'à peu près 300 logements par année. Et ça, c'est à coup de millions, là. Mm. Et pendant ce temps-là, tu perds 5 000 logements de l'autre bord. Fait qu'évidemment que ça ne peut pas marcher, là. Alors, la première chose, c'est de récupérer ces logements-là. Et donc, c'est pour ça que c'est illégal. La deuxième chose, c'est que les propriétaires, c'est pas eux qui donnent de la valeur à leur logement. Les gens pensent ça, moi, je vais mettre de la peinture puis je vais mettre un petit fauteuil dans le coin. Penses-tu vraiment que quelqu'un va payer 400 $ par soir parce que tu as mis de la peinture puis un petit fauteuil dans le coin? Non, ils payent 400 $ par soir parce qu'ils veulent être au centre-ville ou parce qu'ils veulent être sur le plateau Mont-Royal ou parce qu'ils veulent être dans le Vieux-Québec ou parce qu'ils veulent être à Saint-Sauveur ou parce qu'ils veulent être à Magog. C'est le site qui donne la valeur au logement. Cette valeur-là n'est pas tombée du ciel. Elle est d'abord, ces gens-là sont venus s'installer. Pourquoi ils ne vont pas à l'hôtel? Pourquoi ils décident de venir, mettons, sur le plateau? Parce qu'ils veulent être dans l'action. Ils veulent être là où il y a de la vie, là où il y a du monde, là où il y a une vie normale avec des enfants, avec des parcs, avec des écoles. Mais quand tu fais ça à répétition, si une personne loue son logement, pas de problème. Mais si des milliers de personnes, là, tu viens de tuer cette vie-là.
Mais OK, là, ce que Rouba Gazal disait, c'est nous, on n'a rien contre une personne qui, de temps en temps, loue son logement, le logement qu'elle habite, mais quand des gens achètent des logements pour les mettre uniquement sur le locatif à la Airbnb, là, on a un problème avec ça. Est-ce que tu partages ce point de vue-là?
Absolument. Donc, c'est un règlement d'ailleurs. C'est l'analyse d'un rapport qui a été fait par des groupes communautaires, mais de façon très, très sérieuse, en faisant des analyses des annonces une par une, sur des mois et des mois, puis sont arrivés à la conclusion qu'il y avait plus que 50, des fois plus que 75 % dans certains quartiers, des logements, des locataires qui avaient plus qu'une adresse. Donc, c'était pas leur, c'est pas chez eux qu'ils louaient quand ils s'en allaient en vacances, c'était des fois 2, 3, 4, 10 logements. Et il y a des, tu sais, il y a des endroits là où tu vas et il y a des logements, tu sais, tu les reconnais tout de suite d'ailleurs. Là, il y a un coussin avec marqué home dessus, là, puis il y a pas sur le bon, être qui n'ont pas d'imagination.
Attends, qu'est-ce que tu faisais, un coussin avec le mot
câbles,
home?
Les câbles marqués love dans la salle de
bain. Ben okay, oui, c'est okay. Ça.
C'est très générique, là, mettons.
Tu viens de Etsy ou de Pinterest.
Là, exactement. Puis tout est en une sorte de blanc, là, tout était blanchi avec une sorte de chaud, là, comme si c'était, ça venait de Cape Cod, là, tu sais.
Mais Luc, OK, regarde, 12 500 hébergements touristiques de courte durée disponibles à Montréal, selon une carte là, qui circule sur des réseaux sociaux. Il semble que ce soit bien fait, là, mais je t'avoue, je n'ai pas vérifié la méthodologie. Okay? Mais est-ce qu'on peut vraiment dire, hey, si ces 12 500 logements-là n'étaient pas sur Airbnb et qu'ils étaient dans le marché, le problème serait réglé? Je continue ma description, là, parce que généralement, c'est dans la fourchette supérieure de ce que, disons, en termes de désirabilité, là, ce qu'on retrouve sur Airbnb. On n'est pas dans le logement hyper abordable, dans des quartiers abordables, bien souvent. Là.
Bon, ça, c'est vrai. C'était vrai. Là, puis des fois, quand arrivent des grands événements ou quand la situation dure pendant un certain temps, là, les gens se mettent à mettre des logements où tu te dis, mon Dieu, il me semble que je ne payerais pas pour aller là. Mais c'est vrai que en gros, au début, c'était dans le haut là, donc des rénovations qui étaient faites, là, puis qui étaient attirantes, etc. Alors oui, mais ces logements-là, aussi, on en a besoin. Là, des logements dans les villes pour que les écoles sont construites, les commerces sont là. Ce qu'on a de besoin, c'est des gens qui ont des familles, qui vont à l'école du coin, puis qui font leur commerce, qui font leur achat sur la rue principale. Quand il y a un événement comme Formule 1, par exemple, ben là, tu passes devant les logements qui ont été loués pendant la fin de semaine, puis là, tu te retrouves quoi devant? Parce qu'ils sortent tes poubelles n'importe comment, ils savent pas c'est quand le jour des poubelles. Mm-hmm. Quatre boîtes de pizza, 6 Pokéballs.
Ils font le party sur le balcon parce qu'ils ne vont jamais recroiser les gens qui sont en train de garder réveillés.
Ces gens-là, ils ont fait vivre quelques restaurants autour, mais ils n'ont pas fait vivre le commerce local. Pour faire vivre le commerce local, il faut que tu sois là à l'année. Là. Il faut que à l'année, tu sois là, que tu achètes des livres, que tu fasses réparer tes souliers. Je veux dire, faut pas juste que tu achètes 3 pizzas en été. Là. Sans ça, ça ne va pas donner un vrai quartier.
Fais-tu réparer tes souliers, là?
oui, des fois, oui. Ben, okay. Essayer de ce qu'ils te font. Là. Il y avait des colliers, très, très bons cordonniers sur Mont-Royal, pas loin de Boyer. Excellent. Parce que là, MC, il dit l'autre fois que je pluguais du monde, donc là, je plug le cordonnier.
Luc, je veux t'entendre. OK, il y a un commentaire sarcastique qui vient de tomber dans ma messagerie au 98985.
Ouais.
Airbnb, quand c'est rendu illégal de louer sa propriété comme on le veut, wow, liberté socialiste.
Écoute-moi bien, Tomotica. La liberté socialiste, là, je l'ai entendu 1000 fois, cet argument-là. L'affaire, c'est que ce que je disais, j'espère que tu l'as entendu au début de ma chronique, ce ne sont pas les propriétaires qui donnent de la valeur au logement. Oui, si tu habites dans le fond du bois, puis que tu as rénové ton logement, puis oui, c'est toi qui as donné de la valeur à ton logement. Quand tu habites sur le plateau, puis que ton triplex y est passé de 229 000 à 1 400 000, dis-toi bien que c'est pas parce que tu as mis de la peinture dessus. Là. C'est parce que tout le monde va habiter là. Et si tout le monde va habiter là, c'est parce qu'il y a une vie à cet endroit-là. Puis c'est cette vie-là. Regarde, le Vieux-Québec, c'est pareil. Il y a des quartiers comme Saint-Sauveur. Je vous donne un exemple. Saint-Sauveur, plus capable de se trouver du personnel. Pourquoi? Parce qu'il manque de logement. La boulangerie du coin va fermer parce qu'ils ne sont pas capables d'engager des boulangers. Et si la boulangerie du coin ferme, là, tout le monde va en souffrir. Donc, ce ne sont pas... Un quartier, ce n'est pas la somme des actes individuels, des décisions individuelles. Il y a des éléments collectifs là-dedans. Il faut que tu protèges le collectif. Si tu ne le protèges pas, tout le monde va en souffrir. Si, par exemple, celui qui a écrit ce message-là, là, la municipalité qui est à côté de chez lui, dans laquelle il est, accepte qu'un restaurant avec une super grosse aération face à sa fenêtre marche 24 heures sur 24. Et ça arrive dans toutes les villes du Québec où il y a du tourisme. Là. Puis ça arrive dans tous les quartiers.
Qu'est-ce que tu veux dire de l'aération?
Un gros système d'aération, un gros système de climatisation, okay, de ventilation,
bruit,
ou de cuisine, tu sais, des hottes. Puis là, le gars, il part le soir, puis il oublie de fermer le Moses de ventilateur de la hotte, puis ça marche. Ta maison va perdre la moitié de sa valeur. Sais-tu pourquoi il ne fera pas? Parce qu'il y a un règlement qui empêche d'avoir une ventilation qui donne directement sa fenêtre. De voiture. La ventilation est sur le toit. Ça c'est une réglementation socialiste. Mais parce qu'il y a cette réglementation socialiste, ta maison garde sa valeur. Comprends-tu? La valeur, c'est pas juste quelque chose d'individuel.
Luc, connais-tu quelqu'un qui a déjà dénoncé Airbnb là, qui soupçonnaient d'agir
c'est tellement
illégalement?
Drôle. Ça, Patrick, là, ça, c'est un univers vraiment drôle. Il y a des gens qui sont persuadés que leur quartier a perdu l'intérêt à cause d'Airbnb, puis se sont fâchés parce qu'ils voient que le gouvernement ne fait rien. Et là, ils analysent les photos d'Airbnb avec des loupes. Là, puis si jamais tu as pris une photo devant une fenêtre, puis qu'en face, il y a une corniche de maison, il y a quelqu'un qui va reconnaître cette corniche de maison-là, puis qui va identifier l'adresse, puis qui va aller se déplacer devant, puis il va regarder si en fonction des photos, ça pourrait être celle-là. Puis là, il appelle l'inspecteur, puis ils disent « Celle-là, c'est un Airbnb. » Il y en a qui font ça sur des dizaines de maisons. Et ils trouvent des dizaines de coupables. Le problème, c'est que le gouvernement du Québec, en 2019, a mis une excellente loi qui disait « Tu n'as plus le droit de faire du Airbnb, sauf si c'est permis dans ta municipalité, sauf si tu as un permis, sauf si tu payes les taxes. » Alors là, dans ces conditions-là, tu as le droit. D'ailleurs, il y a plein de gens de bonne foi qui le font, qui ont le droit, puis c'est parfait. Là où tu as le droit, là où tu payes les taxes, là où la municipalité juge que ça peut être bon pour la municipalité, fais-le. C'est correct, tu as le droit. Mais paye tes taxes, paye aussi déclare tes revenus. Mais l'affaire, c'est que le gouvernement a mis ces lois-là en place avec une possibilité de pénalité qui pouvait aller de 1 000 à 10 000 pour une personne, puis de 2 500 à 25 000 $ pour une entreprise. Mais ils n'ont jamais donné des pénalités. Ils ont juste donné des avertissements. Avertissement.
Luc, en même temps, moi, je connais deux personnes là, qui ont loué dans les dernières années leur appartement sur Airbnb.
Ouais.
Puis, tu sais, on ne parle pas de gens, là, des multimillionnaires qui ont 50 portes. Ce n'est pas ça du tout. Là.
Non.
Et qui ont reçu des amendes salées là, parce que les personnes avaient oublié d'aller chercher un permis. Vraiment salées. Là. Je te parle de quelques milliers de dollars.
Oui, puis il y a pire que ça. Oui, c'est vrai. Là, les amendes sont salées. Là, c'est les amendes. Ça doit être sur le plateau parce que c'est à ce moment, à une époque, on faisait des inspections pour s'assurer que ça se fasse pas. Là, si tu me dis que c'est des amendes du ministère du Revenu qu'ils ont reçues, ça veut dire que le ministère du Revenu a commencé à donner des amendes et j'en suis bien content. Mais c'était pas le cas pendant 2 ans. Et puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a sans doute cette prolifération de Airbnb. Et aussi d'ailleurs, c'est parce que si tu vas chercher ton permis, tu dois déclarer les revenus liés à ton Airbnb. Fait qu'il y a des gens qui sont, ils veulent pas faire ça là. Ils veulent pas avoir à déclarer ces revenus là. Alors, j'ai perdu mon idée. C'était quoi?
Non, mais je te disais que moi, je connais des gens qui ont payé des amendes assez salées. Là.
Oui. Ah oui, il y a autre chose, c'est ça. Donc, un, tu payes des amendes assez salées. Mais deux, la plupart des municipalités, beaucoup de municipalités, ont des règlements qui disent, OK, ça va faire les Airbnb, même à campagne, là, même loin à campagne.
Ben,
ça va faire, on est tanné.
Gore, on me raconte ça. Là.
Pardon?
Saint-Sauveur, Gore dans les Laurentides.
Oui, c'est ça. Et là, ils vont mettre une réglementation qui empêche les locations à court terme, sauf pour les gens qui sont déjà légaux, sauf les gens qui ont déjà obtenu leur permis du ministère du Tourisme, puis qui ont payé les redevances sur la taxe sur le tourisme, les taxes en vigueur. Ça fait que tu as tout avantage à être légal, parce que si tu ne l'es pas, tu vas être considéré comme une résidence, comme un résidentiel ordinaire. Tu ne pourras plus jamais louer un Airbnb. Si tu le faisais en location court terme, si tu louais à location court terme et que tu respectais les règles, tu vas être considéré comme un droit acquis. Donc, tu vas avoir le droit de continuer.
Intéressant. On va s'en reparler, j'en suis convaincu. Merci, Luc.
Merci.
Art et spectacle. Le Québec maintenant. Voici Catherine Beauchamp. I take the throne and throw away the crown. Justices I've heard I will swallow and reform the words.
Ça s'intitule Love Will Be Reborn. L'amour va renaître d'une de mes chanteuses préférées, Catherine. Martha Wainwright, elle est en studio. Madame Wainwright, bonjour.
Bonjour.
C'est de l'album du même titre. Est-ce qu'on peut écouter du Martha Wainwright en lisant la bio de Martha Wainwright qui s'appelle « Rien de grave n'est encore arrivé »?
Je pense que ça serait un bit much. Là. Très intense. En tout cas, non, je pense qu'une à la fois, une chose à la fois. Okay. Là, ouais.
Donc, album qui est traduit de l'anglais par l'autrice Fanny Britt. Je suis curieuse de savoir pourquoi ça s'appelle « Rien de grave n'est encore arrivé ».
Ça vient d'une phrase dans le livre, en anglais, la phrase, c'est « Nothing bad has happened yet ». Puis j'avais l'idée d'utiliser cette phrase au début du livre, puis après ça, raconter plein de choses qui se sont arrivées, qui sont assez graves, là, mais graves comme les choses pour nous tous dans la vie. C'est des grands sujets dans la vie, un petit peu tabous, difficiles. Tout de suite, avortement, l'alcoolisme, la drogue, famille cassée, divorce, la mort, les enfants nés prématurés. Alors, c'est des choses intenses, mais c'est pas des grandes tragédies. Alors, c'est comme je continue. Alors, je vais continuer. Je vais survivre comme nous allons tous survivre des choses très difficiles dans la vie, qu'on continue. Alors, nothing bad has happened yet. Et finalement, quand j'utilisais cette phrase beaucoup, et là, j'ai remarqué vers la fin de, j'avais presque fini le livre, et je lisais un autre auteur, Miriam Taves, puis elle dit un ligne dans un de ses livres, vers la fin du livre, elle dit, it's like the lyric in the Loudon Wainwright song, nothing bad has happened yet. Et j'ai remarqué que c'était
C'est comme les paroles d'une chanson de Loudon Wainwright, votre père.
Exactement. Ouais. Puis j'ai monté dans mon lit, j'ai dit... Mais aussi, c'est un hommage un petit peu à lui aussi, le livre, dans un sens. Ben, un hommage à lui, mais aussi je parle beaucoup de mon père. On avait une relation assez difficile, mais en même temps avec beaucoup d'amour.
Ouais. Mais Martha, en anglais, le titre est « Des histoires que je pourrais regretter de vous avoir racontées », ce qui ne veut pas dire la même chose
que
le titre actuel. Est-ce que vous regrettez maintenant que ça a été publié, que ça a été lancé dans la sphère publique, de les avoir racontées?
Non, pas les histoires. Non, pas du tout. Faut jamais regretter à raconter notre histoire. Nos histoires sont très importantes à raconter et à partager. Ce sont mes histoires, mais c'est très clair, c'est des choses qui touchent beaucoup de gens. C'est des sujets, je pense, qui touchent en particulier les femmes, je dirais.
Mais qu'est-ce qui vous a donné le goût de désécrire ces histoires-là raconter? Parce que, tu sais, vous auriez pu faire ça dans 20 ans, dans 30 ans.
Vous êtes jeune, de 45 ans. C'est très jeune.
On a le même âge. Moi, j'ai pas envie d'écrire mes histoires.
C'était pas le fun. Je
m'excuse de vous interrompre, mais pour avoir lu votre livre, Martha, vous avez 45 ans, mais vous avez vécu 5 vies. Je veux dire, j'étais fatiguée à lire votre récit de vie.
C'était beaucoup de choses qui sont arrivées, notamment la mort de ma mère en même temps que mon fils est né prématuré. Et après ça, un divorce quand même assez difficile. Mais je pense aussi que dans la première partie, les gens sont intéressés dans mon histoire à cause de mes parents étant aussi en musique. Puis évidemment, mon frère. Alors, je pouvais parler de ces gens comme ça. C'était pas mon idée d'écrire ce livre. Pas du tout. Mais
vous l'avez fait.
Je l'ai fait, absolument. Oui, je l'ai fait. Puis c'est clair. Puis ça m'a pris longtemps parce que des publicateurs m'ont invité à le faire puis m'ont offert un peu d'argent. C'était pas beaucoup. Mais j'ai dit, OK, moi aussi, je vais lire. Je vais être capable d'écrire un livre, que je suis une artiste, je vais pouvoir faire ça. Et j'ai commencé puis j'ai dit, oh my God, qu'est-ce que j'ai...
C'est dur.
Oui, c'est vraiment dur d'écrire.
Pourquoi?
Parce que je suis pas écrivaine. Oh, j'avais jamais. J'ai écrit beaucoup de chansons. Mmh. Alors, je comprends un peu ma forme de poésie qui est assez surréelle des fois, disons même. Mais j'ai un style dans ma musique et dans mon écriture. Mais tu sais, j'écrivais. Puis après ça, il fallait trouver ma plume ou ma voix littéraire. Puis c'est pas évident de le faire. Alors c'est pour ça, je pense que ça a pris un bon bout de temps. J'ai arrêté pendant des longues moments parce que aussi j'avais peur de si le livre, le titre Nothing But Stories I Might Regret Telling You pourrait vraiment arriver. Faire mal. Alors c'était beaucoup j'ai pensé beaucoup, j'ai beaucoup enlevé, j'ai beaucoup mis, j'ai beaucoup enlevé, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup édité avec. Alors c'était,
On va écouter ce qui est votre une de vos chansons, qui est ma chanson préférée de vous, la chanson Far Away. Très mélancolique, comme beaucoup de vos chansons. C'est très beau aussi. Qu'est-ce qui vous a inspiré celle-ci, si je peux vous demander, tant qu'à vous avoir devant moi?
Ouais. quand j'ai écrit cette chanson, j'étais jeune, je sais pas, 21, 22 ans, et je regardais déjà vers le passé. Je pense que je suis quelqu'un qui a en anglais on dit an old soul,
une vieille âme.
Une vieille âme, ouais, merci. Et il y avait déjà de la tristesse et un regard vers mes amis que j'ai déjà perdus, mes amis d'école ou des amis des rencontres que j'ai eues, ils allaient vers d'autres choses, d'autres choix, et que moi maintenant je me sentais seule dans la vie. J'avais voyagé et allé vivre à New York. Je pense que j'étais très seule. J'étais inquiète quand même assez pour qu'est-ce qui va arriver. C'est un peu aussi en regardant vers quand je dis take my hand, je parle un petit peu d'aller vers la religion. Tu sais, je cherche ma raison d'être.
Ça sent dans votre livre d'ailleurs.
Ouais.
Vous avez longtemps cherché votre voie.
Ouais, exactement.
Vous habitez à Montréal.
Oui.
Et vous avez habité à New York, vous avez habité à Los Angeles, un peu à Londres.
Ouais.
Pourquoi vous avez choisi Montréal comme votre base, socle, votre base, ouais.
Mais parce que je suis Montréalaise je voulais que mes enfants apprennent le français, qui connaissent le quartier. Aussi, ma mère, elle est décédée il y a 12 ans, là, ça fait un bon bout de temps, mais j'ai hérité sa maison à Outremont, puis c'était quelque chose de grand, c'était assez lourd d'avoir ça, mais j'ai dit, OK, écoute, peut-être je devrais retourner peut-être à mes racines et de regarder ça un peu, puis de vraiment rentrer dans mes racines d'où je venais, et de retourner vers mes cousins, vers mes tantes aussi. Et là, l'école commence, là on a les docteurs, on a les hôpitaux, on a les spécialistes, on est bien, puis on reste, puis tu dis, OK, je fais un choix. Puis tu sais, choisir, c'est renoncer. Alors c'est ça.
Vous avez parlé de la lourdeur d'hériter de la maison de votre maman, Kate McGarrigle. Bon, il y a votre tante, Anna, il y a votre frère, Rufus, qui a une carrière à l'international, votre papa aussi, qui vient du milieu de la musique. Vous parlez beaucoup d'une façon de s'affranchir de tous ces gens-là. Pour vous, comment vous avez réussi à dire, ben, je suis Martha Wainwright et c'est ceci que je veux faire et je ne vais pas me comparer à un et à l'autre? Pourtant, tout le monde ne fait que ça. Tu sais.
En écrivant un livre.
ça vous aide à vous affranchir?
Je pense que, on est fini avec cette histoire? Non, c'est sûr que moi, j'ai passé 20 ans de carrière en parlant de mes parents et mon frère, parce que chaque journaliste, c'est clair, c'est évident, c'est intéressant, voulait en parler. Puis, on peut vraiment aussi changer l'histoire un petit peu, ça dépendant du journal dont on lisait. Alors, pour moi, c'était une occasion, et je ne savais pas quand j'ai commencé cette livre, mais là, j'ai réalisé quand j'avais fini que c'était vraiment un moment pour une façon de un petit peu put to bed, mettre au lit cette histoire.
Fermer le livre, fermer le chapitre.
Aussi, fermer le chapitre sur et le deuil de ma mère, de raconter cette histoire et aussi de parler un petit peu de femme qui a peut-être vécu, comme tu dis, beaucoup de choses et des choses très difficiles, mais il y a un petit bon à la fin qui dit things are gonna get better. Et c'est important.
Il y a de la lumière au bout du tunnel.
Ah ouais, ouais.
On va écouter une autre de vos chansons. C'est une reprise d'un classique du répertoire québécois.
Dans les rues de nulle part, au milieu des déserts, de froid, de faim et de fer, contre la il refait son nid plus chaud.
C'est difficile à arrêter, hein?
On a, oui.
Et Martin, les yeux fermés, elle s'écoute.
J'ai jamais entendu. C'est un live.
C'était sur votre balcon, je pense.
Ah, OK, peut-être. Ouais, oui, ça sonne comme si c'est sur mon balcon, en tout cas.
C'est sur ça beau.
On a reconnu Le cœur est un oiseau de Richard Desjardins. Oui. Vous avez repris Aïe aïe.
Oui.
Des fois, vous mettez du français dans d'autres chansons.
Oui.
En anglais. Parlez-moi de la différence entre chanter en anglais ou en français.
Le le français dans ma vie occupe une grande partie. C'est comme un autre cerveau que je dois utiliser, mais ça, c'est complètement incorporé dans qui je suis. Alors, de ne pas le faire, de ne pas chanter en français ou de parler en français, ça serait de laisser une partie de moi derrière. En arrière. Et je peux pas le faire. Et c'est sûr que c'est pour moi, c'était un cadeau. C'est pas facile de chanter en français. C'est toute une autre façon. Comme moi, j'ai fait un album de Piaf il y a 10 ans à peu près. Puis juste essayer de, même un petit peu plus, juste chanter en concert ces chansons. Ma bouche faisait mal à la fin.
Oui.
C'est,
ah oui, hein?
You know, c'est plus difficile, c'est sûr. Mais c'est devenu une partie de moi.
Mais c'est l'émotion qui compte dans le code de Le Cœur d'un oiseau, autant que Aïe Aïe ou les chansons de Piaf, c'est l'émotion qui passe directement, c'est pas tant les mots.
Oui, mais en même temps, j'ai choisi ces chansons en particulier.
Avec les
mots. Le Cœur d'un oiseau est une chanson tellement importante, je pense. Mais Richard Desjardins, c'est mon favori. Puis aussi, je fais Barbara dit qu'on reviendra dessus. Ce sont des chansons que j'aime beaucoup.
Le français occupait quelle place dans votre famille? Parce que, bon, tout le monde était très anglophone.
Oui, on
aussi,
est anglophone, oui.
Mais le français, vous l'avez, il est entré comment dans votre corps?
La loi 101.
OK.
Parce que moi, je suis américaine, je n'étais pas née ici. Alors, il fallait qu'on aille à l'école en français, au moins en primaire. On parlait anglais à la maison, mais français à l'école. Puis ma mère et ses sœurs, Kate et Anna McGarrigle, puis leur sœur Jane, elles sont toutes allées à l'école en français quand même, à Saint-Sauveur, au moins pour primaire et aussi une partie de secondaire. Alors, c'était une génération très bilingue. Elles étaient très bilingues, elles sont encore. Alors, c'est un peu dans cette... réalité, les deux. Mais c'est sûr que, ouais, je suis anglophone.
Martha, en terminant, vous êtes connue, mais vous n'êtes pas une méga vedette. Mais dans le monde anglo-saxon, là, on dit Wainwright, les gens vous connaissent. Est-ce que ça vous est déjà frustré de ne pas être une grande vedette et comment vous vous sentez par rapport à ça aujourd'hui?
Ben, je pense que je suis connue aussi parce que mon frère et toute ma famille aussi. Alors, je pense que beaucoup de gens connaissent peut-être mon nom et pas nécessairement musique, ou ils connaissent peut-être la chanson dont je suis plus connue, qu'on peut pas dire en onde.
Non, on peut le dire en onde, on n'est pas en anglais, allez-y.
Yeah, bloody mother fucking asshole. ça fait du bien. Ou pour être quand même fille peut-être rebelle, quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que je suis pas une grande vedette parce que j'ai jamais vraiment travaillé aussi assez fort pour être une grande vedette.
C'est un choix que vous avez fait.
Être vedette, faut aussi faire une musique qui cartonne quand même.
Se dénaturer un peu.
Yeah, puis you gotta be pop un petit peu, ou faire quelque chose comme ça, et après ça vraiment travailler très fort tout le temps. Puis moi, j'ai deux enfants, je suis très intéressée à l'école pour eux, puis d'autres.
Vous êtes écrivaine puis tout ça.
Oui, exact. Exactement.
Ça
faut que je reste dans ma maison à écrire des livres. Là, voilà. Je suis rendue écrivaine.
Martha, merci beaucoup d'être venue nous voir en studio. Continue à faire cette belle musique qu'on aime, que j'aime beaucoup personnellement.
Non, merci.
Et le livre s'intitule « Rien de grave n'est encore arrivé ». On souhaite que rien de grave n'arrive. Merci.
Et on
beaucoup.
A la version d'ailleurs.
Oh,
on va l'entendre.
Okay.
Ah,
on
ouais.
va se laisser là-dessus.
Oui.
Si le vent frappe à ma porte, pour annoncer le réveillon.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, là, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Patrick Lagacé en accéléré.
On va parler de dons d'organes parce que il y avait une histoire vraiment très touchante ce matin dans la presse sous la plume de Rima El-Khoury. C'est celle d'Élise Desaulniers. Élise Desaulniers, autrice qui est aussi directrice de la SPCA, qui a répondu à l'appel pour faire un don, ce qu'on appelle un don vivant, un don de rein. Elle a accepté de donner un rein, non pas à quelqu'un de son entourage, à une personne qui lui est totalement inconnue, par pure grandeur d'âme. Donc, ça nous a donné l'idée d'inviter, d'une part, Élise Desaulniers, à qui on va parler dans quelques instants, mais aussi d'inviter Judith Belair-Kyle. Elle est à la recherche d'un donneur de rein. Elle m'a écrit récemment pour me parler de ses tourments, de cette recherche pour un rein. Elle est au bout du fil. Judith Belair-Kyle, salut!
Oui, bonjour!
Racontez aux gens qui nous écoutent la maladie particulière des reins là, qui vous force à chercher un donneur.
Okay. Moi, j'ai la polycystique dominante rénale. En fait, ce que c'est des kystes qui se multiplient dans les reins jusqu'à temps que le rein soit complètement déchiré, ce qui amène finalement une insuffisance rénale à terme.
OK. Donc ça fait que au fil des années, de plus en plus de kystes sur un de vos reins, qu'est-ce que ça a comme effet?
En fait, c'est sur les deux reins. Ça touche les deux reins. Et quand on atteint là, de l'insuffisance rénale terminale, donc moins de 15% de fonction rénale, on commence à avoir beaucoup de maux de cœur. On a des vomissements, des problèmes de concentration puis de mémoire. Dans mon cas, ça m'empêche de travailler parce que mes symptômes sont quand même assez sévères. Puis les seules possibilités pour prolonger la vie, c'est la dialyse et la greffe de rein.
OK. Donc là, vous êtes en dialyse, j'imagine.
Non, en fait, je suis stable. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai pas encore besoin d'une machine pour vivre, mais je suis très proche. Tant que ça ne descend pas trop, je suis correct.
J'imagine, est-ce que je me trompe ou c'est pas assez grave que soyez prioritaire sur une liste de dons d'organes?
Exactement. En fait, comment ça fonctionne à Transplant Québec, la liste d'attente, c'est qu'il y a certains points qui sont attribués. Donc, moi, je suis pas comme 53e puis je descends à chaque fois. C'est qu'à chaque fois, ils regardent à quel endroit je me situe. Puis, il y a des points qui sont donnés pour la dialyse. Puis, comme moi, je suis pas en dialyse, ben ça m'empêche d'obtenir ces points-là. Fait que je suis sur la liste d'attente depuis le mois d'octobre. Puis, en ce moment, je m'attends à peu près à une attente là, d'encore 4 ans probablement. C'est ce qu'on voit là dans les groupes de greffe. Au Québec, là, les gens qui ont des reins maintenant, c'est des gens qui ont attendu plus de 4 ans.
OK, c'est pour ça que vous vous êtes lancé à la recherche, Judith, d'un donneur ou d'une donneuse vivant. Là. Qu'est-ce que ça implique comme quête?
Ben, dans mon cas, moi, j'ai 36 ans. Fait que quand j'ai appris que je faisais de l'insuffisance rénale terminale, dans le fond, c'est que là, on m'a aussi dit que je pourrais pas avoir d'enfant tant que j'avais pas une greffe. Fait que non seulement, moi, je veux retourner travailler, mais je veux aussi commencer à fonder ma famille parce qu'on était à quelques mois de commencer notre famille quand j'ai eu le diagnostic. Ce que ça implique pour moi, dans le fond, c'est je me suis créé une page Facebook où j'ai un blog, en fait, finalement, sur qu'est-ce que je vis, c'est quoi le don de rein, le don et la greffe, c'est quoi la maladie rénale aussi. Fait que les gens, s'ils veulent aller voir, c'est à Un rein pour Judith sur Facebook.
Okay.
J'ai aussi un blog sur Internet, là, La Guerrière NPR, si les gens sont intéressés.
La Guerrière NPR, OK, parfait.
NPR, comme maladie polycystique rénale.
Ah, je comprends, parfait. OK, je vous mets sur pause une seconde, Judith, parce que je me tourne vers Élise Desaulniers. Elle a 47 ans, autrice et directrice générale de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, la SPCA. Elle était l'objet de la chronique de Rima El-Khoury dans la presse aujourd'hui. Madame Desaulniers, bonjour.
Bonjour.
Comment on en vient à donner un de ses reins comme ça, par grandeur d'âme?
Bien, on est touché par des histoires comme celle de votre invité. Moi, j'ai le privilège d'être en parfaite santé. Puis en fait, je connaissais même pas la maladie rénale. Je savais même pas c'était où les reins avant l'année passée de voir un message sur Facebook de quelqu'un comme Judith qui cherchait un donneur. Puis je me suis dit, hey, tu sais, ça pourrait être moi, ça. Je suis en bonne santé. J'ai des assurances collectives. Je pourrais faire la démarche. Par contre, je voulais rester anonyme. Je voulais que la personne se sente absolument libre. Puis je me suis dit, ben, si je donne à la personne qui en a le plus de besoin, ben, ça va être comme quand on fait des dons de sang ou n'importe quel don de tissu. Ça va aller, il va y avoir un système qui va le mettre en place, qui va le donner à la personne qui en a le plus besoin. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis plus le temps passait, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital à faire différents tests. J'ai aussi beaucoup lu aussi. Puis plus j'étais convaincue de faire le bon choix parce que, comme le disait Judith, quand on souffre d'insuffisance rénale, puis c'est une personne sur 10 qui a des problèmes rénaux, là, il n'y a pas de... Il y a pas de traitement, là. On peut pas avoir une chimiothérapie pour ses reins ou un médicament. C'est soit la dialyse ou la greffe. Donc, on a besoin de solidarité. Donc, ça prend des gens comme moi qui font le petit sacrifice de passer sous le bistouri puis d'avoir une couple de semaines de congé de maladie pour permettre à d'autres de reprendre leur vie normale puis de fonder des familles.
Élise, vous avez fait le lien avec le don de sang, mais quand même, le don de sang, on nous donne un biscuit, on attend 15 minutes, on part à la maison, on n'y pense plus. Dans le cas de l'ablation d'un rein pour un don d'organes, je veux dire, il y a quand même un petit peu plus que 15 minutes d'attente après la procédure, là.
Oui, il y a un peu plus que 15 minutes d'attente. Il y a d'abord toute une série de tests puis d'examens, là. C'est vraiment le plus gros bilan sanguin et de santé qu'on va avoir dans sa vie parce qu'évidemment, les centres hospitaliers veulent s'assurer qu'il n'y a aucun risque pour moi puis que, bien évidemment, mon rein va être compatible avec la personne avec qui ils vont le donner. Mais aucun risque pour moi maintenant ni dans le futur non plus. Fait qu'on veut s'assurer que j'ai un mode de vie sain, que je mange bien, que je fais du sport, tout ça, parce que on veut éviter que je développe des problèmes rénaux. La chirurgie elle-même, j'ai jamais accouché, mais ça peut ressembler à une césarienne. Hein. La cicatrice que j'ai, c'est vraiment juste une petite entaille au-dessus du pubis, comme une césarienne. Puis ouais, c'est évidemment plus que 15 minutes, mais c'est deux nuits à l'hôpital. Et puis, très rapidement, là, on se remet sur pied. Puis c'est sûr qu'il y a des risques. Et pour moi, ça s'est super bien passé. Il y a des gens pour qui ça se passe moins bien, mais c'est très, 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 très mince comme risque. Là. On compare ça à d'autres chirurgies qui sont super fréquentes. Fait que le risque pour sauver une vie n'est pas si énorme que ça quand on y pense. Je pense que la plupart d'entre nous, si on voyait quelqu'un sur le bord de la route en train de se noyer, on n'hésiterait pas à prendre un petit risque pour sauver cette personne-là. Ben là, ça demande de réfléchir un peu plus longtemps, mais c'est pas un si gros sacrifice que ça.
Au Canada, Élise Desauniers, il y a juste une trentaine de personnes par année là, qui font des dons non dirigés, comme ce que vous avez fait. Et là, en cette semaine nationale du don d'organes et de tissus, expliquez donc aux gens, faites-leur un petit pitch, comme on dit dans le monde de la vente, pourquoi ils devraient réfléchir à peut-être faire ça.
Ben, en ce moment, il y a à peu près 3500 personnes au Canada, 500 au Québec, un peu plus de 500 qui attendent une greffe. Et puis, comme je dis, ben, ils sont sur des listes d'attente pour des greffes de donneurs décédés. Par contre, il n'y a pas assez de donneurs décédés à chaque année pour toutes les personnes qui ont besoin d'une greffe, d'une part. Et surtout, c'est beaucoup mieux pour les personnes greffées d'avoir la greffe d'un donneur vivant qu'un donneur décédé. Une greffe d'un donneur décédé, on dit cadavérique. C'est un mot qui m'a fait vraiment freaké au début, là, c'est un peu glauque. Ça va durer une douzaine d'années, alors qu'une greffe d'un donneur vivant, ça peut durer jusqu'à 20 ans. Donc, c'est beaucoup mieux pour ces personnes-là de recevoir des greffes de donneurs vivants. Et puis, ben, ils choisissent un peu plus la date de la chirurgie, etc., etc. Et surtout, oui, gardons en tête qu'il n'y a pas assez de reins de donneurs décédés pour la demande. Donc, je pense qu'on a quand même une petite obligation morale de montrer de la solidarité envers des gens comme Judith puis plein d'autres. Là. Encore une fois, je le répète, c'est plus de 500 personnes au Québec qui attendent une greffe. Et il n'y a pas d'autre traitement pour eux. C'est pas comme s'ils pouvaient avoir des médicaments ou une autre thérapie. Là. C'est la dialyse en attendant. Puis la dialyse, c'est vraiment, vraiment, vraiment demandant. C'est plusieurs jours par semaine pendant de longues heures. Et ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est attendre d'avoir une vie normale, alors qu'après la greffe, ben, ils ont leur vie normale dans la plupart des cas.
Vraiment intéressant. Bravo. Je sais que vous ne vous considérez pas comme une héroïne, mais écoutez, en tout cas, c'est très louable ce que vous avez fait. Merci beaucoup, Élise.
Bien, merci beaucoup.
Au revoir. C'était Élise Desauniers, a choisi de donner un de ses reins à un parfait inconnu. Et elle est directrice de la SPCA. Je reviens à Judith Belair-Kyle. Judith, vous avez entendu ce témoignage-là. Quel est le message que vous voulez lancer au public?
Il y a deux choses, en fait. T'sais, même si vous signez votre carte d'assurance maladie pour dire que vous voulez donner vos organes, en fait, c'est votre famille, après votre décès, qui décide si oui ou non il va permettre, en fait, le prélèvement d'organes. Donc, quand vous signez votre carte, n'oubliez pas d'en parler à votre famille. C'est pas au moment de votre mort, si jamais ça arrive, ben, quand ça arrivera, c'est pas le moment pour eux de faire cette décision-là. Il faut que ce soit réfléchi d'avance. Puis l'autre chose que je veux lancer dans l'univers au Québec, là, c'est j'aimerais ça qu'on parle de consentement présumé. C'est quelque chose qu'ils ont fait en Nouvelle-Écosse. Plutôt que d'avoir à signer un registre pour dire « oui, je veux donner mes organes lors de mon décès », on fait le contraire.
on assume que tout le monde veut le donner, puis on fait un registre pour ceux qui ne veulent pas, ce qui a permis d'augmenter énormément la quantité d'organes qui ont pu donner l'année dernière.
Intéressant. Merci beaucoup, Judith. Bonne chance dans votre recherche. Bonne journée, c'était Judith Belair. Kyle, elle est à la recherche d'un donneur de rein. On est dans la semaine nationale du don d'organes.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Sur un chemin de campagne qui se perd à l'horizon dans le bleu du ciel, vous profitez du paysage. Votre nouvelle Toyota sillonne la route avec agilité et négocie les virages avec douceur. Rien ne peut vous arrêter. Ah, sauf la construction. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre Tundra 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.